Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région. Celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience. Allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié grainesdecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcasts ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines de Curieuse. Cette semaine, Graines de Curieuse est allée à la rencontre de Ludivine Marquis ou NMB, le nouveau musée de Bienne. Cette fille d'horloger jurassien est la conservatrice de la collection archéologique du musée biennois. Vous pensez peut-être fossiles poussiéreux dans une pièce obscure, jalousement conservée par un Indiana Jones sur le tard. Ici, rien de tout ça, Ludivine évolue dans un milieu vivant et ludique. La preuve, celle qui vit au-dessus du lac de Neuchâtel va même bientôt régater en pirogue préhistorique en Italie et jouer de la pétanque sur le site romain de Petinesca. Bonjour Ludivine.
Bonjour Isabelle.
Ludivine Marquis, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler surtout d'archéologie et d'une très belle pirogue.
On se trouve donc au NMB, le nouveau musée Bienne. C'est ton lieu de travail.
Oui, c'est là que je travaille depuis 2012 maintenant, depuis la naissance du nouveau musée Bienne. Car avant, il faut savoir que à Bienne, il y avait deux musées qui s'appelaient le musée Schwab et le musée Neuhaus. Le musée Schwab qui était le musée d'archéologie et le musée Neuhaus qui était le musée d'art et d'histoire.
Et quelles sont tes fonctions ?
Je suis la conservatrice du département archéologie, parce que dans ce musée, il y a trois départements, archéologie, art et histoire. Et moi, je m'occupe de la collection archéologique du colonel Schwab, la collection archéologique de la ville de Bienne. Et puis, à côté de cela, il y a tous les projets d'exposition passionnants.
Avant de venir à ce qui se passe ici dans ce musée, moi, j'aimerais savoir pourquoi l'archéologie t'intéresse.
C'est une très bonne question, c'est une question que je me suis souvent posée et puis quand je réfléchis à mes premières émotions que j'ai pu avoir avec le passé, et c'est en fait un dessin animé, bêtement, qui s'appelle Les Mystérieuses Cités d'Or, j'ai pas honte de le dire, mais quand je regardais ce dessin animé quand j'étais toute petite, c'était le Club Dorothée je crois, et c'est là que j'ai eu vraiment les premières émotions, on va dire, avec ce passé lointain et aussi plein d'aventures. C'est un peu comme ça qu'on s'imagine l'archéologie, même que ce n'est pas toujours le cas.
Est-ce que tu regardais aussi Il était une fois l'homme ?
Oui, je regardais tous ces dessins animés. Enfin, le Club Dorothée, je connaissais par cœur, je crois.
D'accord, donc ça a commencé comme ça un peu. Ça, c'était un rêve d'enfant, alors, d'entrer là-dedans ?
Oui, il y a quelque part ce souvenir-là, mais après, mon parcours ne me destinait pas forcément en fait, à devenir archéologue, parce que j'étais dans une famille où on avait une entreprise de boîtes de montres. J'ai fait des études tout d'abord dans l'école de commerce. J'ai fait un diplôme à l'école de commerce en comptabilité. Et puis après, mon père, lui, il voulait que je fasse des études. Et puis c'est lui qui m'a dit, si tu as les capacités, continue, tu peux aller plus loin. Et puis, à la fin de l'école de commerce, j'ai fait encore le lycée, parce que dans le canton du Jura, on pouvait faire ce qu'on appelle la voie longue. Et puis, j'ai fait le lycée. À la fin du lycée, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Pourquoi pas aller à l'université ? Et puis, en regardant le programme, toutes les différentes disciplines qu'il y avait à l'université, je vois archéologie. Et en fait, c'est pas du hasard, mais presque quand même un petit peu. J'ai commencé des études d'archéologie à l'université de Neuchâtel, avec l'ethnologie aussi. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai terminé des études d'archéologie et je me suis retrouvée ici à Bienne.
C'était ton premier poste ?
Oui, c'est quelque chose qui est aussi assez étonnant. En fait, j'ai atterri à Bienne en 2006 grâce à une de mes copines, une de mes colocataires qui travaillait au musée Schwab et puis qui m'a dit, ben, on cherche quelqu'un pour nous aider sur une exposition, est-ce que ça t'intéresse? Et à ce moment-là, j'avais pas d'autres activités, en tout cas juste des activités alimentaires, donc pas forcément très intéressantes. Et puis, ben, j'ai sauté sur cette occasion. Et après, je suis toujours restée dans le giron du musée Schwab jusqu'à ce que je sois engagée de manière fixe en 2009. Et ensuite, ben voilà, en 2012, il y a eu la fusion qui a donné naissance au NMB. Et c'est là que j'ai eu le poste de conservatrice.
Alors, tu as eu une période un petit peu chaude, on va dire, justement pendant cette fusion, parce que le département d'archéologie a failli disparaître. Comment tu as vécu ça?
Ben, assez mal, évidemment, parce que, en fait, c'était une proposition du conseil municipal pour faire des économies au moment où justement les finances de la ville n'étaient pas au beau fixe. Ils ont proposé tout un paquet d'économies qui touchaient principalement la culture, et puis ils ont proposé comme mesure assez drastique pour le NMB, qui venait de naître, de supprimer un des départements. Et évidemment, ben, c'était le département d'archéologie qui se trouvait en danger. Et ben, évidemment, on l'a très mal vécu, mais en même temps, on s'est battu pour se faire entendre. On a eu des soutiens d'archéologie suisse, mais aussi du canton de Berne, qui a fait pression sur la ville de Bienne, sur le conseil municipal, pour éviter la fermeture d'un département.
Donc, c'est dire si l'archéologie a une importance dans la vie actuelle. Comment tu situes, oui, cette importance-là de nos jours?
Ben, l'archéologie, pour moi, c'est une manière aussi de réfléchir sur le présent et sur nos propres sociétés. Parce qu'avec l'archéologie, souvent, on pose des questions au passé. Comment c'était dans le passé? Par exemple, aujourd'hui, on est une société dans laquelle la mobilité a toute son importance. Et on voit très bien qu'en archéologie, les questions de mobilité dans le passé, au cours de la préhistoire, au néolithique, à l'âge du bronze, etc., ce sont aussi des thèmes de recherche qui sont extrêmement importants. Et on voit très bien dans la recherche archéologique qu'on fait toujours un aller-retour, en fait, entre le passé et le présent. Et quand on fait ces recherches dans le passé, ça nous permet aussi d'avoir des réponses pour aujourd'hui, ça nous permet de mieux comprendre en fait nos sociétés, comment on fonctionne. Et il y a aussi des questions, par exemple, sur les rôles de genre. Aujourd'hui, ce sont des questions qui sont aussi extrêmement importantes. Et on va regarder aussi dans la préhistoire, mais comment c'était? Est-ce que les hommes étaient des chasseurs? Est-ce qu'ils ne faisaient que ça? Et est-ce que les femmes étaient des cueilleuses, est-ce qu'elles restaient à la maison avec les enfants? Enfin, ce sont des questions qui intéressent les archéologues aujourd'hui et c'est ce qui nous permet de comprendre aussi nos propres sociétés. Et ça, c'est ça que je trouve extrêmement intéressant en fait avec l'archéologie.
Alors ça sera l'objet d'une prochaine exposition,
Oui.
justement. Mais moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je me souviens de la conférence de presse sur la fameuse pirogue palafitique qui a été retrouvée. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour toi, encore important aujourd'hui dans ta vie.
Oui, alors cette pirogue, c'était une très belle aventure. Cette aventure a commencé en 2013. On avait à ce moment-là une exposition sur les pirogues de la région des Trois Lacs. Et puis on a décidé de fabriquer une pirogue qui est une reconstitution de celle qui se trouve derrière le bâtiment Schwab. Et cette pirogue existe toujours. Elle s'appelle Xiphia, l'espadon en grec. On a choisi ce nom aussi pour une sorte de nom prémonitoire, comme ça en se disant que notre pirogue allait être la plus rapide. Elle est plutôt pas rapide et difficile à manœuvrer, mais elle gagne quand même souvent les régates internationales de pirogue. Parce que dans la foulée de cette exposition, on a décidé de créer un événement, donc le NMB avec Archéoconcept, qui est une boîte privée d'archéologie ici à Bienne. On a décidé de fonder cet événement des régates de pirogues. Et puis la seconde année, cette régate a eu lieu aussi sur le lac de Bienne, On s'est dit qu'on allait faire quelque chose d'international, hein, qu'on n'allait pas garder ça pour nous. Et on a motivé aussi cette décision parce que les sites palafitiques sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils concernent 6 pays européens. Donc il y a la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, l'Italie et la Suisse. Et puis tous ces pays, jusqu'ici, ont joué le jeu. Cette année, au mois de juillet, il y a la 5e régate internationale de pirogues qui va se dérouler en Italie. Et puis l'année prochaine, dernière édition, ce sera en Allemagne. Et voilà, c'est un projet qui est vraiment passionnant parce que ça nous permet de sortir du musée. Ça nous permet de faire connaître l'archéologie, mais aussi les palafites. Et puis cette pirogue, elle est magnifique, elle est grande aussi. Et quand on traverse des régions, quand on est sur l'autoroute avec la pirogue derrière la voiture, ben, on ne passe pas inaperçu. Puis c'est aussi une manière de communiquer puis de transmettre un certain savoir.
Alors c'était justement la question que je voulais te poser. C'est déjà le poids de cette pirogue. Et puis comment vous faites et combien vous êtes pour vous déplacer avec cette pirogue ?
C'est un projet qui est assez fun, il faut dire. Hein, parce qu'on est une équipe, on est plutôt une équipe de nanas à faire ça. Justement avec Cynthia Dunning d'Archéoconcept, qui a aussi autour d'elle toute une équipe de femmes archéologues. Et puis on se déplace avec une voiture, une remorque à bateau, notre pirogue. Et puis cette année, vu qu'on se déplace jusqu'en Italie, donc c'est quelques kilomètres, hein, c'est tout proche de Venise, le lieu où on va, Lago di Ledro. Et on profite en fait de ce voyage pour s'arrêter sur différents sites palafitiques. Et notre idée, c'est de créer des petites capsules, des petites vidéos avec les gens qu'on va rencontrer sur place, ceux qui s'occupent de la médiation culturelle ou les responsables des sites. Et puis, on va poster ensuite ces petites capsules vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une manière de faire de l'archéologie fun, mais en même temps de transmettre la science aussi. On réfléchit toujours aux meilleurs moyens de communiquer pour que ce soit aussi intéressant, parce que quand même, l'image du musée, même qu'ici, il se passe plein de choses, c'est un musée très dynamique, et puis ben, c'est aussi le cas dans les autres musées, mais il y a quand même toujours encore un peu cette image du musée, un peu pas ennuyant, mais c'est comme si on devait déjà connaître le contenu ou connaître ce qu'il y a à l'intérieur avant de pouvoir y entrer. Et ça, je trouve ça assez dommage. Et c'est pour ça qu'on essaye de trouver des moyens de communication un peu plus drôles et qui rendent aussi le contenu, l'archéologie, l'histoire, l'art accessible, en fait.
Donc, tu n'as toujours pas répondu à ma question sur le poids de la pirogue.
Le poids ! Oui ! Alors, c'est un beau morceau parce qu'elle pèse 500 kilos, une demi-tonne. Donc, à manœuvrer, une fois qu'on est sur l'eau, on est bien. Mais quand on doit sortir la pirogue de l'eau pour la mettre sur la remorque, ce n'est pas toujours facile parce que les endroits où on va ne sont pas toujours équipés de grues. Et puis voilà, on se débrouille comme on peut. C'est une manière, pas artisanale, mais on trouve aussi toujours des gens très sympas qui nous aident à pousser cette pirogue sur la remorque. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller, ça c'est sûr. Peu importe la température de l'eau aussi, il ne faut pas avoir peur de mettre les pieds dans l'eau, et pas que les pieds d'ailleurs.
Avant le mois de juillet, il y a quand même encore un autre événement, parce que c'est aussi un des autres piliers de ta vie d'archéologue. C'est le site de Petinesca, qui n'est pas loin de Bienne, qui est à Studen. Puis là, c'est un autre de tes bébés.
Oui, c'est un site que j'adore vraiment. Petinesca, il faut absolument y aller. C'est un site archéologique où on se sent extrêmement bien. Enfin, je sais pas, il y a des lieux comme ça qui déploient une certaine énergie où on se sent bien. Et puis là, quand on monte tout en haut dans l'endroit qui s'appelle, c'est le sanctuaire du Gumboden en fait, quand on est tout en haut dans la forêt, on se sent tellement bien cet endroit-là que vraiment j'invite tout le monde à y aller, absolument. Et avec l'association Pro Petinesca, donc qui fait la promotion de ce site, on organise le 23 juin, un dimanche, un tournoi de pétanque. Donc tous les amateurs de pétanque, ceux qui savent jouer et ceux qui ne savent pas jouer, c'est pas grave, ont rendez-vous sur l'esplanade des temples où on joue des parties de pétanque, on peut faire des grillades, c'est aussi un des temps forts de la journée. On peut manger, boire, pas trop parce que c'est quand même mieux de...
Faut viser et pointer.
Voilà, c'est ça. Et voilà, et c'est... Enfin, je trouve que c'est aussi intéressant de lier le jeu, la pétanque qui est un jeu très très populaire, avec ce site archéologique. Et là, franchement, c'est assez culotté d'aller jouer à la pétanque sur des temples romains.
Est-ce que les Romains y jouaient à la pétanque ? On sait ça ?
Non, alors les Romains ne jouaient pas à la pétanque. Et puis, j'ai vu dernièrement à la télé... La pétanque, c'est pas très très ancien, hein. Je crois que c'est quelque chose qui date du XXe siècle.
C'était une façon de se réapproprier ce terrain d'une autre façon ?
Oui, exactement. Et puis, c'est tellement important aussi que tout le monde puisse y aller, qu'on puisse se balader, puis qu'on puisse faire quelque chose aussi à cet endroit-là. Et puis, ben voilà, maintenant, ces temples, ils sont recouverts par du gravier, donc un lieu idéal pour jouer à la pétanque. Le sanctuaire, il est composé de 6 temples, de 3 chapelles, et puis également d'un bâtiment multifonctionnel, on va dire. Et puis, ces temples sont relativement bien conservés. Enfin, relativement bien conservés, c'est pour nous les archéologues. Après, pour le grand public, peut-être pas, parce qu'on ne voit pas de colonnes, il n'y a rien qui sort de terre. Mais en tout cas, ils sont là. Et puis, ce site archéologique est aussi très vaste. Les premières traces se trouvent à la gare de Studen. Donc on a aussi le vicus, le village de Petinesca, qui se développait au pied de la colline. Et puis ensuite, ben, on monte sur la colline, donc sur le Jensberg. Et puis on a encore, on va dire, une sorte de quartier intermédiaire ou de quartier supérieur avant d'arriver au sanctuaire.
Le sanctuaire, c'était donc un lieu saint, mm-hmm. un lieu de culte. Pourquoi il y avait autant de temples ? Est-ce qu'on arrive à expliquer ça ?
Ben, on sait que c'est un centre religieux extrêmement important pour la région, pour toute la région. On n'a pas d'autres sanctuaires de cette taille dans la région. Un autre sanctuaire aussi important, c'est celui de Berne, Engerhalbinsel. On en a à Thun Almendingen. Et puis sinon, après, ben, c'est la capitale, c'est Avenches. Mais avant l'époque romaine, le site était déjà occupé par les Celtes. Ça, il faut le savoir aussi. Il y avait aussi un oppidum relativement important à cet endroit-là, qui faisait, on pense, une trentaine d'hectares, dont on n'a pas retrouvé beaucoup d'éléments, parce qu'en même temps, c'est un site qui n'est pas en danger. Donc le service archéologique ne va pas fouiller un site qui n'est pas en danger. On le comprend bien, il a d'autres priorités, effectivement. Et là, du coup, c'est un site qui est protégé, mais dont on ne sait pas beaucoup de choses pour les époques qui précèdent l'époque romaine, en tout cas. Cette initiative de créer cette association est le fait de Ruditz Fallen, qui est Monsieur Petinesca, comme on l'appelle. C'est lui qui a fait toutes les fouilles à partir des années 80 jusqu'en 2011. Et puis, lui, il a eu l'idée de refonder Pro Petinesca, parce que c'est une association qui existait déjà à la fin du 19e siècle et qui a disparu juste avant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, voilà. Ruditz Fallen, c'est une personne qui aime tellement cet endroit et qui est tellement motivée aussi à le faire connaître qu'il a réussi à refonder cette association. Et puis maintenant, il y a, je crois, 80 membres environ, et puis qui sont assez actifs pour faire connaître cet endroit.
Et puis on peut se rendre très facilement sur le site, hein, donc on saura Studen, et puis c'est très rapidement indiqué, il y a un panneau qui indique Petinesca. Et puis on peut partir à droite.
Oui, c'est juste.
On doit grimper un petit bout,
oui.
À pied, parce qu'on doit parquer en bas. Mais enfin, on arrive assez rapidement, donc chacun peut aller le voir en sortant de Vienne pour faire une petite excursion. Moi, j'étais ravie de faire ta connaissance un peu plus élargie, Ludivine, dans un autre cadre, justement un cadre archéologique. Et c'est vraiment un musée qui vaut la peine. Vous faites toujours des expositions ponctuellement différentes pour faire découvrir toute cette collection qui est énorme. Tu peux nous dire ce qu'il y a en ce moment, juste nous donner envie de venir ?
Oui, alors il faut absolument venir voir l'exposition d'Erika Pedretti, que la plupart des gens connaissent comme écrivaine, mais elle est aussi artiste plasticienne. Et elle a créé toute une série d'ailes, enfin de suspensions, de mobiles qui sont très touchants en fait, parce que ce sont des pièces qui sont extrêmement lourde, mais la manière dont elle les travaille, on a l'impression que tout est en légèreté et puis c'est très organique comme ça. Moi, j'adore vraiment. Il y a dans une pièce comme il y a une énorme aile, on dirait que c'est une grande aile de dragon comme ça. C'est très très organique et animal en même temps. Ça, c'est l'exposition du département art, donc de Bernadette Walter. Voilà, qui, elle, s'est occupée de cette exposition. Mais après, c'est vrai qu'on fait des expositions aussi qui mêlent art, histoire et archéologie. Mais là, c'est pas le cas. C'est une exposition qui est vraiment consacrée à cet artiste. Sinon, il y a aussi une exposition géniale à venir qui ouvrira ses portes le 22 juin et qui s'intitule « Le bilinguisme n'existe pas », qui va donc traiter des langues, surtout à Bienne. Et l'affiche, elle est très sympa. C'est Caro qui a créé l'affiche. C'est une tour de Babel qui est constituée des bâtiments emblématiques de la ville de Bienne. Et enfin voilà, ça c'est une exposition qui sera extrêmement intéressante, qui va susciter le débat aussi, je pense, dans une ville comme Bienne, où la question des langues est absolument centrale. Je pense qu'en tout cas ici au musée, il ne se passe pas une semaine sans qu'on en parle, même quand on n'a pas ce genre d'exposition. Et d'ailleurs, le titre « Le bilinguisme n'existe pas », le titre de l'exposition n'existe qu'en français. Alors est-ce que ça va susciter des réactions chez les germanophones ? À voir aussi hein, comment tout ça va fonctionner. Et puis sinon, ben on en a parlé tout à l'heure, l'exposition sur les rôles hommes-femmes dans la préhistoire, qui, elle, ouvrira ses portes cet automne.
Ça sera très intriguant. On se réjouit en tout cas. Merci beaucoup, Lydiville. Et puis, bonne continuation à toi et au musée.
Oui, merci à toi. C'était un vrai plaisir.
Cet épisode vous a plu, ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi!